tel ou tel, qui restait à traiter pour le groupe d'Institut biblique qui se réunit avec moi, je n'en ai pas trouvé, et du coup, j'ai choisi comme sujet le sujet que j'ai le plus travaillé dans les mois de septembre et de début octobre. J'ai dû parler sur ce sujet aux États-Unis. Cette question des livres apocryphes de l'Ancien Testament, ajoutés à l'Ancien Testament sous le titre de deutérocanonique par une partie de la chrétienté. Je me suis dit que nous devrions aujourd'hui aussi choisir des sujets pour la suite de l'année. C'est l'habitude que nous avons, que les questions traitées émanent du groupe. Alors, j'ai un certain nombre de propositions à vous faire. Il faudrait que nous choisissions à la fin de l'heure, mais pour vous donner le temps juste d'y penser un instant, je vais vous les annoncer dès maintenant, ces propositions qui me sont venues. Si vous avez vous-même d'autres questions, d'autres idées, vous pouvez aussi les exprimer. Mais il faudra faire un choix. Je pense donc que nous pourrons consacrer un nombre qui n'est pas déterminé à l'avance de séances de notre institut biblique à l'étude des questions que je vais mentionner, ou d'autres, selon votre préférence. Je serai absent quelquefois, à cause de mes déplacements aux États-Unis précisément. Je pense que l'accord est fait, que M. Charles Kenfack pourrait me remplacer, au moins certaines fois, pendant mes absences. Alors, en traitant les mêmes sujets ou en traitant d'autres sujets. Cela serait aussi un petit peu selon ce qu'il souhaiterait lui-même. Alors, voici les questions entre lesquelles nous pourrions choisir à la fin de l'heure, après que j'aurai traité celle des apocryphes aujourd'hui. Si c'était plutôt des sujets bibliques, je pense que nous pourrions reprendre, nous en avons parlé sous l'angle des livres prophétiques, mais reprendre un certain nombre de passages annonçant la mission de Jésus-Christ, ce qui concerne sa personne, dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ce serait une série d'études envisageables. Éventuellement aussi, bien que ce ne soit pas mon fort, nous pourrions aussi traiter, faire une série d'études sur la typologie de l'Ancien Testament, les principaux types, c'est-à-dire les préfigurations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, guidées par certains passages du Nouveau, guidées surtout par l'Épître aux Hébreux. Ce serait un sujet possible pour une série d'études, il en faudrait quelques-unes. Si c'était davantage de doctrine chrétienne que nous nous entretenions, je pense que nous pourrions reprendre certains sujets qui ont été traités de manière brève et condensée dans notre grande revue là-haut, donc ces dernières années, de points de doctrine. Nous pourrions revenir par exemple sur la doctrine de la Sainte Cène. Que penser de la doctrine de la présence réelle? Est-ce que le pain est changé en quelque chose d'autre? Y a-t-il une dimension de sacrifice lorsque nous célébrons la Sainte Cène? Ces questions-là, et vous reconnaissez des thèmes qui sont associés à la doctrine eucharistique de l'Église catholique, ces questions-là pourraient être traitées assez en détail, ce serait un sujet possible. Nous pourrions aussi avoir une série sur les théologiens les plus fameux de l'histoire de l'Église et de l'époque contemporaine, si ça vous intéressait. Ce serait une éventualité. Éventuellement traiter aussi de philosophie, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais ce serait éventuellement une possibilité, puisque j'ai charge d'enseigner un cours d'histoire de la philo depuis bien des décennies, donc j'ai une certaine habitude de traiter ces sujets, si vous le souhaitiez, hein, ce serait envisageable. Je n'ai pas de compétences marquées pour un dernier sujet que je mentionne, mais enfin, je pourrais toujours essayer de me servir de mes sources pour faire des présentations qui restent des présentations alors assez élémentaires sur les autres religions, les grandes religions du monde. Ce serait aussi une chose à envisager sur certaines d'entre elles, par exemple, mais sur d'autres religions, je serais obligé de me contenter de manuels que je j'explorerai pour vous, mais je pourrais vous faire un exposé condensé de certains éléments, ce serait aussi une possibilité. Donc vous voyez, il y a des possibilités assez diverses auxquelles j'ai pensé, et tout à l'heure, donc, je suggère, je vais essayer de laisser les 5 minutes voulues pour ça à la fin de notre heure, et ne pas, nous commençons un petit peu plus tard que d'habitude, mais tant pis, nous essaierons de condenser. Donc, à la fin de l'heure, nous pourrions choisir un sujet pour quelques études. Nous voudrons remettre au Seigneur ce moment que nous avons le privilège de passer ensemble. Est-ce que M. Bacala voudrait nous conduire dans la prière? Demander la bénédiction du Seigneur sur notre travail.
Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour ta miséricorde, Seigneur, pour ta grâce. Nous avons permis, Seigneur, de nous réunir ce matin. Nous voulons faire l'éternel pour ta capacité, Seigneur.
À la fin d'assez nombreux écrits sacrés, diverses cultures, et déjà dans un texte qui est l'instruction de sagesse, Ptahotep en Égypte, 2200 ans avant Jésus-Christ, il y a l'avertissement, ne pas ajouter quoi que ce soit, ne pas retrancher quoi que ce soit. Un écrit qui vient de Dieu doit être préservé dans son intégrité, sans soustraction, sans addition. Et vous vous rappelez que la fin de notre Bible, et je pense qu'il y a un dessein providentiel dans le fait que c'est juste à la fin de notre Bible, à la fin de l'Apocalypse, il y a un avertissement solennel à ce propos. Le même principe est énoncé de manière très très ferme. Je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Ce principe, qui exclut toute addition comme toute soustraction, donne tout son sérieux à la question que nous abordons ce matin. Vous savez, entre les Bibles protestantes, comme on dit, et les Bibles catholiques, il y a une différence d'épaisseur. Il y a, rattaché à l'Ancien Testament, sous le titre de deutérocanonique en général, je vais l'expliquer, il y a dans les Bibles catholiques les livres qui ne figurent pas dans les Bibles protestantes. Il y a trois catégories principales de ces ouvrages, et puis en plus, alors, il y a des additions à quelques-uns des livres de notre Bible. Il y a des additions à Esther, des additions à Daniel, et des additions à Jérémie. On peut considérer que c'est comme un autre livre, mais c'est un prolongement de Jérémie, avec Baruch. Et puis il y a donc trois catégories, trois fois deux livres, qui sont ainsi dans les Bibles catholiques, et qui ne sont pas dans les Bibles protestantes. Il y a deux livres de sagesse, deux livres qui sont de la même catégorie quant au genre de sujet traité que le livre des Proverbes, le livre de Job, le livre de l'Ecclésiaste, on les appelle les livres de sagesse. Ce sont des sages qui les ont écrits. Alors il y a deux livres de sagesse, le livre de la sagesse dite de Salomon, mais c'est clairement un pseudonyme, c'est un ouvrage qui a été écrit environ 50 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc le livre de la sagesse, dit de Salomon, un livre ambitieux, un livre d'un auteur très très bon connaisseur de la philosophie grecque, avec la capacité d'une expression assez éclatante. Et puis le livre dit de l'ecclésiastique, ne pas confondre avec l'ecclésiaste, de l'ecclésiastique, ou encore on dit le Siracide, parce que son auteur est Jésus, fils de Sirac. Yeshua, Parce que Jésus, c'était un nom commun hein, parmi les Juifs. Donc, Jésus, fils de Sirach. Alors, fils de Sirach, Siracide. Et on dit souvent le Siracide, surtout quand on ne veut pas que les gens mélangent avec l'Ecclésiaste. Donc, il vaut mieux utiliser un autre terme. Deux livres de sagesse. Celui dont je viens de parler, le Siracide, est traduit de l'hébreu. En grec. Parce que ces livres ont été accessibles en grec et non pas en hébreu. Bien qu'il ait été écrit en hébreu, on n'a pas conservé entièrement le livre. On a de bons fragments maintenant, on les a retrouvés. Mais c'est la traduction grecque qui a été reçue au cours de l'histoire de l'Église et il ressemble un petit peu au proverbe par sa manière de présenter son texte. Donc, vous avez ces deux livres de sagesse. Vous avez ensuite deux livres d'histoire, le premier et le deuxième livre des Maccabées. Les Maccabées, ce sont ces héros de l'histoire juive qui ont mené une guérilla finalement victorieuse contre les oppresseurs grecs dans la première partie, la première moitié disons, deuxième quart, du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Antiochus Épiphane, que le livre de Daniel avait prédit, a dévasté le temple, a voulu contraindre les juifs à adopter les mœurs juives et le culte, les mœurs grecques et les cultes grecs. Alors ils ont résisté et on les a surnommés les Maccabées, d'un mot qui signifie le marteau. Maccava, c'est le marteau en hébreu. C'est un peu comme on a dit Charles Martel pour le héros de la bataille de Poitiers. Là. Donc il y a les deux livres de Maccabées qui sont dits d'histoire. Correspondraient un petit peu par le style au livre des rois, si vous voulez. Et puis vous avez deux livres qui sont des livres, on pourrait presque dire de romans, mais ou de contes, mais qui se donnent une allure historique, centrés sur des personnages. Le livre de Tobie, qui est surtout centré sur le fils de Tobie, qui s'appelle Tobie. Vous avez Tobie avec un T à la fin, et puis Tobie avec un E à la fin. Alors le héros, c'est Tobie, Tobias, si on préfère, dans ce livre de Tobie. Et puis vous avez le livre de Judith. Cette si belle jeune juive, jeune veuve juive qui, alors que le peuple est sous la menace d'une énorme armée conduite par le général Holoferne, réussit à séduire ce général et lorsqu'il se retrouve dans l'intimité de sa tente, à lui trancher la tête. Délivrant ainsi son peuple, parce que à ce moment-là, l'immense armée se débande. Et... Donc vous avez ces deux livres qui font appel bien davantage au pittoresque et à l'imagination, et qui étaient des récits édifiants, au moins aux yeux des Juifs. Vous avez donc ces six ouvrages, plus les additions au texte de certains livres de notre Ancien Testament. Le nom apocryphe, qui veut dire normalement caché, mais qui était utilisé de manière un peu péjorative, il y a certains pères de l'Église qui l'ont utilisé pour des écrits hérétiques. Ce livre apocryphe a été pour la première fois utilisé pour ses ouvrages, ceux que je viens de mentionner, par Saint Jérôme. Saint Jérôme, ce n'est pas n'importe qui, dans l'histoire de la grande Église. C'était l'homme le plus instruit de son temps, sans doute le plus érudit, en particulier en matière de langue. Il a vécu à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle, donc aux alentours de l'an 400 après Jésus-Christ. Et après avoir eu un ministère à Rome, où il avait déjà eu pas mal d'influence, il s'est retiré comme ermite à Bethléem. On parle souvent de lui comme l'ermite de Bethléem, mais faisant là un travail de traduction considérable. Et c'est lui qui a repris le vieux essai de traduction en latin de la Bible, mais a mis les choses au point et a traduit de manière nouvelle certains passages, et a donc été le traducteur de la Bible en latin, appelée Vulgate, que tout le christianisme de l'Occident a utilisé pendant des siècles et des siècles. Or ce Jérôme, traducteur de la Bible que les catholiques ont désigné comme la traduction authentique à laquelle se référer, a dénoncé comme apocryphe ces livres. Il leur a donné ce nom et il disait il faut revenir à la vérité hébraïque. C'était son expression. Ne considérer vraiment comme livre canonique, la Bible elle-même, inspirée de Dieu, que les livres que les Hébreux reçoivent. Vérité hébraïque. Donc, Jérôme est le premier à avoir utilisé ce terme. Alors, les livres qu'il appelait apocryphes, il les a quand même traduits aussi, hein, mais avec des introductions où il montrait quand même son avis. Et ça a été préservé dans la tradition catholique. Et ça n'a pas empêché les catholiques de prendre ces livres, et de plus en plus progressivement au fil du temps, comme une part de l'Ancien Testament. Et finalement, au XVe siècle, au milieu du XVe siècle, il y a eu un concile qui voulait établir la réunion entre les chrétiens de l'Orient, les chrétiens de l'orthodoxie orientale, et puis les chrétiens du catholicisme latin, un concile à Florence. Alors finalement, il n'a pas réussi à faire l'union. Il n'a pas été appliqué. Mais il a inscrit ses livres parmi les livres canoniques. Et puis surtout, au siècle suivant, le concile qui a rétabli l'ordre dans l'Église, après la grande division de la Réforme, le concile de la contre-réforme, le concile de Trente, Trente c'est une ville en Italie, hein, c'est pas le nombre 30 qui est en cause. Le concile de Trente a dressé la liste des livres canoniques de l'Ancien Testament et il a inclus les livres que je vous ai désignés il y a quelques instants. C'était aussi une réaction contre le protestantisme parce que environ 25 ans auparavant, ce que la Réforme avait éveillé et avait donc conduit à revenir à la Bible, avait repris cette question du canon et était revenu à l'option de Jérôme. Le premier à avoir écrit sur ce sujet, c'était Andreas Bodenstein, dit Karlstadt, de sa ville d'origine, qui n'était pas un théologien écervelé et sans aucun poids. C'est lui qui avait présidé la cérémonie d'attribution du grade de docteur à Luther. Luther, avant de devenir le réformateur, était un docteur en théologie. Et la cérémonie même où on lui avait conféré le grade de docteur en théologie, c'est Bodenstein, Karlstadt, qui l'avait présidé. Luther a découvert la vérité centrale de l'Évangile, a appelé au retour à l'Écriture, et Bodenstein a suivi. Il est devenu luthérien. Et dès 1520, donc très peu de temps après les débuts de la Réforme, il a écrit un livre sur le canon, où il disait clairement qu'il ne fallait pas recevoir comme vraiment part de la Bible les apocryphes. Il reprenait cette opinion, et ça a été l'opinion de toute la Réforme protestante, et aussi anglicane. Alors pendant très longtemps, les Bibles protestantes, celles de Luther, la traduction de Luther par exemple, ont contenu ces ouvrages, mais pas avec les livres de l'Ancien Testament, dans une section à part, et avec l'indication qu'il ne s'agissait pas de livres inspirés qui puissent faire autorité pour la doctrine, mais simplement de livres bons et utiles à lire. C'est ce que dit Luther dans son introduction. Et alors c'est à cela que le Concile de Trente a réagi, en inscrivant dans la liste du canon ses ouvrages, et peu de temps après, un grand érudit, qui était un converti du judaïsme d'ailleurs, Sixte de Sienne, dans l'Église catholique, a suggéré de les appeler deutéro-canoniques, pour marquer quand même une certaine différence avec les autres, une deuxième section du canon. Et cette appellation deutéro-canonique, mais ça reste canonique, hein, est aujourd'hui très largement utilisée dans le catholicisme, et c'est ce qui a suscité aussi mon intérêt pour cette question, mais le sentiment qu'il fallait de nouveau examiner les choses, l'habitude d'appeler ces livres deutéro-canoniques au lieu de les appeler apocryphes se répand même parmi les protestants aujourd'hui. On veut faire preuve de bonne volonté écuménique, on ne veut pas choquer, alors On dit deutérocanonique. Peut-être sans croire vraiment qu'ils font partie du canon, mais en fait, ça voudrait dire ça. Oui. Et dans les sociétés bibliques en particulier, vous savez que je suis fortement impliqué dans le travail des sociétés bibliques, j'ai remarqué que bien des gens disent maintenant très couramment deutérocanonique. Comme on collabore avec les catholiques, les plus bibliques d'entre eux, mais quand même, qui pensent que c'est canonique, alors on dit deutérocanonique assez couramment. Moi, je suis obligé chaque fois de me battre un tout petit peu pour dire apocryphe pour les protestants, de rappeler que nous les appelons apocryphes. Et il me semble qu'étant donné le sérieux de l'affaire, ne pas ajouter, ne pas retrancher, il convient que nous soyons au clair. Alors, je voudrais d'abord, dans un premier temps, rappeler tous les faits établis de la question. Situés, ce sont des questions historiques, certaines entrent dans un peu de détails, mais j'espère que vous allez suivre sans trop de mal. Et puis après ça, alors, définir quel est le statut que faire de ces livres. Alors, quant aux faits, il y a une première chose qu'on peut dire avec beaucoup d'assurance, mais il faut le dire quand même, parce que ce n'est pas clair dans tous les esprits. L'idée qu'il y ait eu un canon alexandrin est une idée sans fondement. Alors, je vous explique ce dont il s'agit. L'apologétique catholique, au XIXe siècle, surtout encore peut-être au début du XXe siècle, disait, oui, bien sûr, les Juifs de Palestine, les Juifs de Jérusalem, les Juifs pour lesquels quand même l'hébreu ou l'araméen continuait d'être la langue principale, eux, ils ont eu ce canon des livres hébraïques qui ne contient pas les livres de Maccabée, la sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique, etc. Mais les Juifs qui étaient en Égypte et qui avaient pour capitale culturelle Alexandrie, à Alexandrie, il y avait des centaines de milliers de Juifs, et puis c'était une ville de science, c'était la ville de deux merveilles du monde, la bibliothèque, la plus grande bibliothèque de l'Antiquité, avec des centaines de volumes, des centaines de milliers de volumes, excusez-moi, il y avait le phare. Les Juifs qui étaient à Alexandrie, nous a-t-on dit, eux avaient un autre canon. Ils avaient un autre canon qui incluait tous ces livres. Et eux qui parlaient grec, donc, avaient un canon de langue grecque plus étendu pour leur Ancien Testament que celui des Juifs de Jérusalem. Et c'est ce canon-là que l'Église chrétienne a été libre de reprendre. Oui. Alors, je pense qu'on peut dire vraiment avec assurance qu'il n'y a plus aucun spécialiste de quelque compétence dans le monde qui soutient cette thèse du canon alexandrin. Elle a été complètement désagrégée, pulvérisée par les critiques. Il n'y a pas la moindre indication, nulle part, que les Juifs d'Alexandrie aient eu un tel canon différent. Nulle part. Nous avons des auteurs d'Alexandrie, et en particulier Philon, grand philosophe, très grand philosophe, qui a vécu de moins 30 peut-être, de 30 avant Jésus-Christ, jusqu'à vers 41, 42 sans doute, après Jésus-Christ, donc de cette époque. Il a écrit une œuvre massive, ses ouvrages sont dans les bibliothèques, tiennent à peu près ça, hein, vous avez, et il cite, ses ouvrages sont en grande partie des commentaires de l'Ancien Testament, et celui d'Alexandrie, qui écrivait en grec, ne cite jamais les livres apocryphes, jamais. Alors, c'est quand même très très significatif. Oui. Un peu plus tard, dans la deuxième partie du premier siècle, il y a un très grand historien juif, auquel nous sommes redevables très largement pour ce que nous savons du judaïsme de la période et de son histoire, c'est Flavius Joseph. Flavius Joseph, qui a écrit deux grands ouvrages, trois grands ouvrages en fait, l'histoire des juifs, les guerres des juifs, enfin les antiquités juives d'une part, l'histoire antique, et puis les guerres des juifs, et aussi un contre Appion, un écrit polémique. C'était un juif, il avait été pharisien, mais il avait connu d'autres courants aussi, et il était devenu commandant des troupes de la rébellion juive au moment de la guerre qui a conduit à la destruction de Jérusalem à partir de 66 après Jésus-Christ. Cette guerre que Jésus a vue d'avance qui lui a donné envie de pleurer sur Jérusalem au moment de sa passion. Joseph, jeune pharisien très doué, etc., était le commandant des troupes pour la Galilée. Mais il a été vaincu. Finalement, il a dû, avec la poignée de ceux qui étaient avec lui, se rendre, et il risquait l'exécution. Normalement, il devait y passer. Mais il a dit au général romain qui était en face de lui, « J'ai une prophétie pour toi !» Il savait que les Romains étaient impressionnés par l'idée que chez les Juifs, il y a eu des prophètes, etc. « J'ai une prophétie pour toi !» Alors il a donné sa prophétie, comme par hasard cette prophétie, c'était que le général deviendrait empereur. Alors il a eu la vie sauve. Il a été rattaché à la maison de cet empereur, et du coup il a eu le surnom de Flavius, qui venait de cette famille romaine. Donc il est devenu Flavius Joseph, et sa prédiction s'est réalisée. Vespasien est effectivement devenu empereur. Oui. Ça a permis à Flavius Joseph de vivre assez vieux et de faire tout un travail de recherche et de présentation du judaïsme pour tout le public cultivé du monde gréco-romain de l'époque. Et donc nous sommes redevables. Alors, il parle du canon, il donne des détails, dans le Contre-Appion, il y a un passage très très clair, et où il dit entre autres que personne n'ose ajouter ou retrancher quoi que ce soit au texte saint. Il le dit clairement, et il le dit... les livres qu'il y a, et ce sont les livres du canon hébraïque. Seulement ces livres-là, il les compte comme 22, mais ça, on peut tout à fait repérer que ce sont ces livres-là. Les livres, donc, ils sont dans nos Bibles protestantes, depuis la Réforme. Parce que la Bible protestante est revenue simplement au canon hébraïque. Donc, l'idée qu'il y a eu un canon alexandrin ne repose absolument sur rien de sérieux scientifiquement, et aujourd'hui, plus personne ne parle vraiment de canon alexandrin. Mais, il en reste quand même quelque chose. Les gens n'ont pas, me semble-t-il, pris la mesure des conséquences de la réfutation de cette idée. Et vous rencontrez encore souvent des formules, le canon de la Septante, je l'ai rencontré chez des auteurs, le plus de la Septante, pour parler de ces livres. Alors pourquoi parle-t-on comme ça du plus de la Septante? Qu'est-ce que la Septante d'abord? Qu'est-ce que la Septante? Eh bien la Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament qu'avaient faite ces Juifs d'Alexandrie, d'Égypte en tout cas, mais ils étaient certainement pratiquement tous à Alexandrie. La légende voulait qu'il y ait eu 70 ou 72 même traducteurs, et c'est pour ça qu'on a dit Septante. Alors on dit parfois les Septante, ou la Septante, plus simplement encore. La Septante, c'est donc la traduction grecque faite à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ça a été fait avant Jésus-Christ. La traduction de l'Ancien Testament en grec à l'usage des Juifs de la diaspora. Et dans les plus anciens manuscrits de la Septante que nous possédons, se trouvent aussi les livres en cause. Ces livres, donc, que Jérôme a appelés apocryphes. Vous voyez ? C'est pour ça que certains ont dit qu'il y avait un autre canon à Alexandrie, et que, d'autre part, certains continuent de dire le plus de la Septante. L'adjectif que l'on forme techniquement, septuagintal, le plus septuagintal, le plus de Septante. Mais c'est une conséquence que l'on tire avec très peu de bon droit. D'abord, j'ai dit c'est plus ancien manuscrit de la Septante. Mais savez-vous de quand il date? Il date du 4e et du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est les plus anciens. Mais on a dans les premiers codex, recueils, parce qu'avant c'était des rouleaux, alors on les mettait dans une même armoire, mais ce n'était pas un seul livre. Là, on a commencé à utiliser des codex un peu comme nos livres, beaucoup plus grands, avec des grandes feuilles de parchemin. Oui. Les premiers sont du 4e siècle, après Jésus-Christ. Et ceux où l'on trouve les livres en débat sont des codex chrétiens. D'ailleurs, on sait que ce sont les chrétiens qui ont utilisé des codex. Les juifs ont resté encore à leur rouleau par traditionalisme. Oui. Donc, la présence de ces livres n'est pas un témoignage. Il y a des livres qui sont rajoutés ici ou là. Et à quel titre sont-ils rajoutés? C'est le troisième point. Rien ne dit que parce qu'ils sont dans le même codex, ils sont traités comme aussi par de la Bible elle-même, comme canoniques. Et de bons auteurs, j'ai une citation par exemple de Earl Ellis, dit qu'en fait, leur présence peut ressembler plutôt à celle d'un recueil, comme nous avons des éditions de la Bible parfois qui ont des cantiques qui sont rajoutées, par exemple, ou bien des aides aux lecteurs, oui, des appendices. La présence de ces livres dans ces codex chrétiens du 4e et 5e siècle, donc bon, c'est beaucoup plus tard, peut très bien s'interpréter de cette façon. Donc, parler d'un plus de la Septante par rapport à la liste canonique, ça ne repose sur rien de très solide. Oui. Voilà les premiers faits. Cependant, les avocats de la position de type catholique, disons, entre nous, ont réussi à construire une argumentation quand même plus persuasive, plus solide que ce que certains avaient dit et que je viens de montrer très insuffisant. Alors, quel est aujourd'hui le plaidoyer de ceux qui veulent inclure ces livres? Le premier point, c'est que l'Église ancienne a reçu ces livres, en a fait un grand usage, les a hautement prisés, les a révérés comme écriture, et c'est ce qui se voit par exemple chez le très grand père de l'Église, Saint Augustin, au début du 5e siècle. Augustin manifestement a été influencé par ces livres apocryphes, donc que les catholiques disent deutérocanoniques, et il a fait triompher leur admission dans un concile régional à Carthage en 397, où cette la liste de ces livres est présentée comme canonique. Donc, premier argument, l'Église ancienne et Augustin. Deuxième argument, en fait, c'est la prérogative de l'Église de définir le canon. D'une part, les Juifs n'avaient pas fini de déterminer les frontières de leur canon. Au temps de Jésus, ils n'avaient pas encore de canon, ça restait très ouvert. Ce n'est qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ que le canon hébraïque a été clos. Ce sont les pharisiens qui l'ont emporté avec leurs idées, mais les sadducéens à leur époque et les esséniens n'étaient pas d'accord sur le canon. Donc avant la chute de Jérusalem, il y avait encore une situation fluide dans le judaïsme, pas de canon défini, et puis c'est seulement après que les pharisiens, l'ayant emporté, ont fait triompher, au bout du compte, au deuxième siècle, leur canon. Donc, ça ne nous lie pas. Nous sommes chrétiens, ce n'est pas ce choix des pharisiens dans le judaïsme post-chrétien qui peut être une norme pour nous. Et puis d'autre part, l'Église est le vrai Israël. L'Église, la grande Église, a toute l'autorité voulue, c'est elle qui détermine le canon. Ça, c'est l'argumentation principale. Alors, je traiterai dans quelques instants de l'aspect plus théologique. Je rage un petit peu peut-être, mais le point historique à mettre en lumière d'emblée, c'est que l'on simplifie, et que c'est tendancieux même, énormément les choses quand on dit que l'Église ancienne a reçu comme écriture ses livres. En fait, Saint Augustin, oui, mais Saint Augustin vient, comme je vous l'ai dit, après 400, enfin un peu avant 400 et après 400. Et Saint Augustin n'était pas un érudit, c'était un génie incroyablement supérieur, mais pas un érudit. Et il y a eu d'ailleurs des disputes avec Jérôme, qui lui était un érudit, mais sans doute moins génial. Augustin n'était pas un érudit, et son option n'est pas du tout une option que l'on puisse constater dès le début de l'Église ancienne, et de manière unanime. En fait, s'il y a quelques citations pour l'ensemble des pères de l'Église où les textes apocryphes sont traités comme écriture, cités comme écriture, c'est rare. Moi, j'étais surpris de voir à quel point c'est rare. Et le plus souvent, il s'agit des passages qui sont les additions aux livres bibliques, ce qui
signifie donc que ces chrétiens des premiers siècles n'étaient pas conscients qu'il s'agissait d'addition au livre biblique. C'était pour eux le livre biblique, mais ce n'était pas qu'ils reconnaissaient comme l'écriture d'autres livres. Donc il y a finalement très très peu de citations. Et puis, ça alors c'est très 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 important, dans l'ensemble de la littérature chrétienne des quatre premiers siècles, il n'y a aucun commentaire ou aucune homélie, c'est-à-dire une prédication, qui soit sur ce livre. Alors ça, c'est quand même très très significatif. On les lisait dans l'église, c'est sûr, on trouve des allusions et des commentaires comme ça, épisodiques d'une phrase, ici ou là, on connaît les histoires, Judith, oui, ça... Mais, alors que les textes, les livres bibliques de l'Ancien Testament sont abondamment commentés, que les prédicateurs suivent, et que là, suite on publie, on publie, il n'y a aucun livre de commentaires ou homélie sur ces livres dans le christianisme ancien. Ça, c'est un fait tout à fait énorme. Et puis, il y a quelques listes de livres canoniques. Et avant ce concile de Carthage, qu'Augustin a dominé en 397, et concile seul régional, je vous le rappelle, toutes les listes qui ont été faites avant ne contiennent pas ce livre apocryphe. La première, elle va être une plus ancienne, on n'est pas sûr de sa date. Un document appelé Hierosolymicanus, 54. Mais en tout cas, la liste de Méliton de Sardes, qui était l'évêque le plus brillant et le plus influent dans la dernière partie du deuxième siècle en Asie mineure, il a fait la liste, lui, il n'y a pas les livres apocryphes. Il y a un concile à Laodicée qui a eu lieu avant celui de Carthage, qui non seulement n'a pas ces livres dans la liste, mais qui a interdit de les lire, officiellement en Église en tout cas. Donc, vous avez des prises de position qui sont très nettes dans ce sens-là. Et vous avez la 39e lettre de fête pour la Pâque, Athanase, le grand patriarche d'Alexandrie, qui fait une liste en 367 et qui dit que ces livres sont des livres extérieurs, comme on les appelle dans le judaïsme, ils ne sont pas canoniques. Donc, vous avez des données qui sont là, tout à fait contraires à cette thèse. Et certaines figures, surtout les plus érudites, ont averti contre une acceptation trop facile de ces livres comme canoniques. Julius Africanus a écrit à Ariane, qui était très embarrassé, qui lui a répondu, écoute, tu me donnes l'église, etc. Julius Africanus n'était pas le premier venu, c'était le directeur de la bibliothèque impériale. Donc, là aussi, un homme de science qui écrivait pour dire, mais c'est absolument impossible d'admettre comme authentique l'histoire de Cézanne rajoutée au livre de Daniel. Donc, il y a eu des protestations au cours des siècles, et on peut s'y donner que dans l'église orthodoxe orientale, il n'y a pas d'unanimité. Et que, il y a eu un citoyen de Jérusalem en particulier en 1672 qui a accepté ces livres, mais qu'il y a d'autre part des bâtiments de l'église grecque au 19e siècle qui les ont rejetés. Il y a un patriarche du 9e siècle, Nicéphoros de Constantinople, qui les avait rejetés aussi comme canoniques. Et le dernier document, un document de 1973 de la commission inter-orthodoxe, adopte pratiquement la position de Luther en disant que ces livres doivent être distingués des livres canoniques et inspirés en ce qui concerne l'autorité de l'acte et l'inspiration divine. Ils sont bons et utiles à lire, mais il ne faut pas les considérer comme écriture. C'est donc bien la preuve qu'on ne peut pas dire que l'Église ancienne, et même cette Église extrêmement conservatrice, que l'Église orthodoxe orientale, les ait admis. Quant au canon hébraïque, c'est une dispute de spécialistes. Je ne vais pas entrer dans le détail, bien que j'ai un peu travaillé ce détail ces dernières semaines, mais voilà. C'est une opinion que celle qui dit que le canon hébraïque n'a été finalement clôturé qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, après la fuite de Jérusalem, etc. De très bons auteurs qui ont une grande autorité scientifique sont d'un avis contraire. Et j'en citerai deux que j'ai vus dans mes travaux. Il y a un savant évangélique d'Oxford, que j'estime très haut, qui a écrit un livre de près de 600 pages sur le sujet, sur le canon dans l'Église, et qui nage dans le Talmud, dans tous les textes du judaïsme, vraiment, est très à l'aise. Roger Pérez, un anglican évangélique, qui affirme que le canon hébraïque était pratiquement clos déjà 200 ans avant Jésus-Christ. Pratiquement. En tout cas, au deuxième siècle. Et je me rappelle que l'abbé Carmignac, qui était le rédacteur de la revue de Qumran, avec qui d'ailleurs j'ai une fois eu l'occasion de lire un détail de Qumran, on est prêt, dans sa recension de cet ouvrage dans la revue de Qumran, qui était autorité sur les découvertes de la mer morte, a fait une recension de cet ouvrage de Beckwith en reconnaissant sa valeur. Donc, Beckwith, c'est une autorité. Et puis, donc, dans mes recherches plus récentes, et c'est une déclaration récente, c'était de 2000, le professeur Robert Hanhart de Tübingen, qui est salué comme un grand spécialiste de la Septante, affirme lui aussi que, déjà au IIe siècle avant les écrits, pour l'essentiel, le canon hébraïque était décidé, que c'était conclu. Et le document qui semble pouvoir l'affirmer le plus nettement, et il en fait un commentaire, une analyse très convaincante, c'est le prologue du Siracide, de ce livre de l'Ecclésiastique, où il y a déjà les trois divisions du canon hébraïque, et où le Siracide lui-même présente son travail autrement. Il y a aussi quelques passages que l'on peut citer dans des textes de Qumran qui vont dans le même sens. Donc, contrairement à la thèse qui est présentée, quant au fait, on peut dire qu'il n'y a pas eu unanimité dans la reconnaissance comme canonique des apocryphes dans l'Église ancienne, de très loin. Il y a eu un certain usage, et peut-être que parmi les foules peu instruites, des gens s'imaginaient que c'était la Bible elle-même, mais ça n'a pas du tout été unanime, et en particulier les gens les plus instruits ne les admettaient pas. Et d'autre part, en ce qui concerne le canon hébraïque était sans doute déjà bien dessiné avant l'ère chrétienne. Ce qui enlève, voyez, les deux piliers de l'argumentation que j'ai résumé. Il ne reste que les trois piliers, qui est l'autorité de l'Église. Je vais y venir dans très longtemps. Mais ayant dit cela, alors, je vais passer à la question théologique. Si historiquement, la thèse de ce qui voudrait inclure dans le canon ces livres n'est pas solidement fondée, que dire de l'argument ecclésial? Il est bien vrai que l'Église est le véritable Israël, je crois que c'est une doctrine du Nouveau Testament, que c'est l'Israël de Dieu. Il est bien vrai qu'elle évite des promesses de l'Ancien Testament. Il est bien vrai que Dieu a établi des bergers pour conduire son peuple. Alors là, première chose à dire, me semble-t-il, c'est bien sûr qu'il faudrait savoir quelle Église. On dit l'Église. Est-ce que les Églises protestantes ne sont pas l'Église? Est-ce que nous ne sommes pas l'Église aussi? Et même, il y a des différences entre les orthodoxes orientaux et les catholiques latins. Donc, c'est une pétition de principe, c'est-à-dire l'Église a décidé. Une fraction de la chrétienté qui prétend, au titre d'Église universelle, a décidé dans ses conciles de Florence et de Trente, mais elle ne peut pas si facilement présenter cette décision comme une décision qui bénéficie de l'autorité de l'Église, de Jésus-Christ, purement et simplement. Nous avons au moins le droit de réagir à ce propos. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut être très prudent en ce qui concerne la prérogative, l'autorité de l'Église. Si c'est une autorité supérieure à la parole de Dieu pour suggérer que l'Église, en quelque sorte, a les moyens d'être déterminée parce qu'elle a une autorité supérieure, ce qui est la parole de Dieu, alors là, c'est tout à fait inadmissible. Cela veut dire que l'Église ne pourrait jamais être réformée par la parole de Dieu, qu'elle s'arroge la souveraineté, qu'elle remplace la tête par le corps. C'est la tête qu'elle a autorisée, c'est pas le corps. Alors que ce n'est pas là, la tête des catholiques en fait. Bon, il y a certains catholiques qui ont dit c'est ce côté-là, mais d'autres ont dit non, le pouvoir du pape, il n'a pas le droit normalement de faire des nouveaux dogmes. Il est au service de l'Écriture sainte. Et il est là simplement pour la garder. C'est la théorie, vous. Alors si on affirme ce ministère des autorités de l'Église catholique, que commenter à propos de la prétention que l'Église catholique a déterminé le canon de l'Ancien Testament selon la prérogative qui était la sienne. La grande réponse de la réforme, et je crois qu'elle est bonne et juste, et elle joue contre certains théologiens protestants d'ailleurs d'aujourd'hui aussi, c'est que l'Église avait pour mission, en effet, de reconnaître comme service les limites de la révélation du Nouveau Testament, car c'est le pacte de Dieu de la Nouvelle Alliance. Reconnaître les limites du canon du Nouveau Testament, c'est bien l'Église qui l'a fait. Elle ne l'a pas fait par un concile, mais elle l'a fait dans la réalité de sa vie, providentiellement, quand il part. Le Seigneur, malgré toutes ces divisions, l'Église, répandue sur toute la face de la terre, a reconnu le même canon du Nouveau Testament, parce que cela lui incombait, quand il part, la providence de Dieu. Mais, l'Ancien Testament, c'est pas le livre de l'Église, même si l'Église en hérite. C'est le document du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Et Romains 3:2 énonce ce principe, c'est aux Juifs, et Paul parle des Juifs, même qui restent incrédules, c'est aux Juifs qu'ont été remis, confiés, les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu, qui constituent donc l'Ancien Testament, c'est au judaïsme et à ses autorités que cela a été confié. Et eux, ils ont en effet délimité le canon. C'était leur mandat, ils l'ont fait malgré leur infidélité, là encore. Ils ont reconnu les limites justes du canon de l'Écriture. Et Jésus a sanctionné. Jésus a, dans son usage, utilisé la catalogue. Et il a cité uniquement sa forme. Il a écrit les ouvrages du canon hébraïque. Et Jésus a dit par exemple à Matthieu 23, des pharisiens, écrit des pharisiens qui sont assis dans la chaire de Moïse et qui vont faire ce qu'ils disent, pour faire ce qu'ils font. Mais il fallait les écouter. Alors sans doute pas surtout, mais la prérogative de délimiter le canon, manifestement, Jésus a considéré qu'il l'avait repris, il l'avait exercé comme il devait. C'est ça la grande réponse. Et alors il y a un point très très intéressant, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, c'est que le Christ lui-même a reconnu qu'il n'y avait pas de révélation de type canonique dans l'intervalle entre Malachie et le Nouveau Testament. C'est une doctrine du judaïsme très intéressante à observer que l'Esprit Saint a cessé d'inspirer des prophètes de valeur canonique après Malachie. Alors ces années étant présentes, alors on commence, je n'arrive pas à faire une idée tout à fait d'ordre dans les années, mais on vous recommande sur l'usage du statut. Je crois qu'il peut être très clair pour nous qu'il n'est pas question d'admettre ces livres dans le canon, et de les considérer autrement que comme apocryphes, selon les termes de Saint Jérôme lui-même. Nous devons retenir cette position, elle est solide, et il n'y a pas d'argument de fait qui puisse vraiment l'affaiblir. Et alors, est-ce que ça signifie que nous devons rejeter ces livres, que nous devons nous en désintéresser, ou même trouver plus vite qu'il contient un suspect? Cela ne suit pas nécessairement. Les termes visés, ils sont quand même bons et utiles à lire, comme des ouvrages de théologiens depuis le Nouveau Testament, quand nous lisons des auteurs avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord, mais qui sont utiles, bons et utiles à lire. Et ce qui me semble montrer qu'ils sont bons et utiles à lire, c'est qu'ils ont été utilisés dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne n'est jamais comme écriture, jamais comme livre canonique, mais il y a bien des passages où on voit qu'ils ont été lus, qu'il y a comme des allusions, il y a des reprises de terminologie, c'est assez évident. Le Nouveau Testament les a utilisés, les hommes du Nouveau Testament, et notre Seigneur Jésus lui-même. Il est clair que dans certains passages, il y a une allusion, parfois d'ailleurs pour renverser une formule. Moi j'aime beaucoup le faire remarquer pour un passage de Jean 6, dans l'Ecclésiastique, Sirside, chapitre 24, la sagesse en personne dit celui qui me mange aura encore faim, celui qui me boit aura encore soif. Et puis Jésus dit dans Jean 6, celui qui me mange n'aura plus jamais. Plus jamais soif. Vraiment, c'est transparent, c'est une allusion. Mais Jésus, pour montrer qu'il est la révélation définitive, qu'en lui, c'est l'aboutissement du plan de Dieu, renverse la formulation qu'on appelle dans le livre du Siracide. Donc, il y a eu une utilisation. Et ces ouvrages sont très utiles pour nous informer sur la période entre les testaments et les guerres des Maccabées. Nous n'en saurions pratiquement rien. Ou très peu, en tout cas, sans les livres de Maccabée. Et Flavius Joseph lui-même les a utilisés, dépend d'eux. Et nous ne pourrions pas dire que là a été l'accomplissement des prophéties de Daniel, par exemple. Daniel 8, ou Daniel 11, serait inintelligible pour nous. Nous ne pourrions pas repérer les accomplissements. Et puis, connaître le judaïsme, à l'époque de Jésus-Christ, ces livres nous le permettent, nous montrent la place de la loi. Donc, ces livres sont utiles, pourvu que nous ne les traitions pas comme ce qu'ils ne sont pas, comme la parole de Dieu. Voilà donc un résumé d'un certain nombre de points qui les concernent. Merci d'avoir suivi jusqu'à ce moment précis. Alors, étant donné l'heure, je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de débat entre nous. Maintenant, est-ce que vous avez une préférence sur les sujets que j'ai évoqués en début de séance pour nos prochaines réunions? Oui. M. Patin aussi? Aussi? Oui, oui, donc ce serait en fait un peu branché sur l'étude de l'islam, mais ça pourrait...
Et puis la notion d'intégrisme, comment on peut la définir dans la Bible? Est-ce qu'on peut pour nous? Nous sommes des intégristes
d'autres.
Oui,
nous sommes appelés ainsi... Plus souvent fondamentaliste qu'intégriste quand même. Mais en fait, pour l'islam, c'est le mot fondamentaliste qui devrait être employé, ou alors islamiste. Intégriste n'est pas un terme utilisé dans l'islam même. Et le mot fondamentalisme a un sens très très différent. c'est le rapport à la politique qui est caractéristique, alors que le fondamentalisme chrétien n'est pas défini de cette façon. Qu'on soit pour ou contre, il n'est pas défini de cette façon. Est-ce que ce choix, cette préférence, serait-ce celle de la plupart? Est-ce que deux se sont exprimés, mais oui, j'ai l'impression que... Oui, oui, d'accord. Bon, alors, nous nous engagerions dans une série d'études où je ne garantis pas un niveau égal de compétence de ma part, mais bon, tant pis. Et incluant en particulier dans les premières études, peut-être que je commencerai par le judaïsme, pour avoir un ordre d'éloignement croissant, mais avoir l'islam et la question de la laïcité se brancherait dessus, puisqu'elle nous est posée très pratiquement en tant que citoyen. D'accord, c'est le sujet. D'accord, bon. Voilà, merci bien.